Les nuits de France Culture.
L'émission que vous allez entendre dans un instant est le 4e épisode d'une série de 10 consacrée aux plantes divinatoires et aux champignons hallucinogènes sur l'antenne de la RTF en 1963. Après Roger Heim, directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est l'écrivain René Étiamble, lui aussi connaisseur du Mexique et des pratiques chamaniques, qui s'entretient avec René de Saulier pour évoquer l'importance du rituel dans ses pratiques chamaniques. Rituel dont vous allez entendre plusieurs enregistrements recueillis par Roger Heim lors d'un voyage au Mexique en 1956 auprès d'une guérisseuse immensément célèbre, Maria Sabina. Voici donc le rituel, 4e épisode de la série Plantes divinatoires et champignons hallucinogènes pour la liberté coupable, une émission du 16 novembre 1963.
La radiodiffusion télévision française présente La liberté coupable. La liberté coupable, 3e série.
Santo, 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 Santo.
Plantes divinatoires, champignons hallucinogènes. Une suite d'émissions composées par René de Saulier, avec le concours de Jacqueline Harpet. Aujourd'hui, le rituel, avec René Étiamble, et la voix de la Maria Sabina, enregistrée par Roger Heim. Réalisation Pierre Barbier.
Dans le catalogue des plantes divinatoires dressé par Hermès, on ne peut oublier le rôle dévolu à la grenade, fascinante. Il s'agit d'un rite communiel, d'une vieille histoire mythologique, mais qui pour nous reprend toute son importance. Écoutons-la.
Hadès donne une grenade à Perséphone. Par là, Perséphone est liée à Hadès et à son royaume, et obligée de rester auprès de lui pendant un tiers de l'année.
Il est évident que ce séjour obligé ne peut convenir à l'être soumis. Et la version d'Ovide précise.
Pour quitter les enfers, une condition est requise. Dans le séjour souterrain, il faut que jamais les lèvres de l'être soumis n'aient touché aucun aliment. Ainsi en a décidé un arrêt des parcs.
L'une des conditions requises est donc le fait de ne pas toucher à une plante plus qu'à un aliment. Or, la jeune fille avait rompu le jeûne en frayant ainsi l'édit, elle avait cueilli une grenade et, poursuit Ovide, elle avait retiré 7 grains et les avait pressés entre ses lèvres. Ainsi, nous nous trouvons en présence, non pas, si vous voulez, de l'interdit, mais d'une infraction, et nous en verrons le sens tout à l'heure. Nous nous trouvons encore en présence du fait, tel fruit, les 7 grains de grenade, telle partie de fruit ou de plante joue un rôle déterminant. Qu'advint-il de celle qui avait enfreint l'édit? Personne n'avait vu l'être condamné au séjour souterrain, mordre dans les grains de grenade, sinon Ascalaf, c'est-à-dire une certaine espèce de hibou, qu'autrefois l'obscurité avait conçu de ses amours avec l'Achéron et enfanté sous de noirs ombrages. Très curieusement, nous retrouverons le hibou comme animal chargé d'un rôle sinistre, en fait l'être de nuit espionne. Une autre plante joue un rôle déterminant dans cette relation mystère, mets, breuvage et image. Il s'agit à Éleusis du gruau d'orge battu dans une eau, le kikeon. Il s'agit ainsi d'une farine d'orge diluée et bien entendu diluée à l'aide d'une plante, d'une menthe. cette menthe aromatique devait sans doute donner au breuvage en question un goût plus agréable, mais de l'ingestion du breuvage dépendait une série d'ivresses, dépendait trouble, désordre, confusion momentanément. La partie secrète des mystères, à Eleusis, doit être nettement située. Tout mystère implique un lieu secret et implique un rite. Voyons d'abord quel était le lieu. Ce lieu s'appelait Telesterion, ou cœur du sanctuaire. Avant que d'entrer dans le Telesterion, les candidats à l'initiation absorbent un breuvage sacré. Bien entendu, ensuite, personne ne pourra quitter l'enceinte. Et ce breuvage est le même que celui qui avait restauré Déméter après un jeûne prolongé à la recherche de Perséphone. À Eleusis, les initiés, les mystes, devaient prononcer la formule des mystères éleusiniens conservée par Clément d'Alexandrie. Et voici cette formule.
J'ai jeûné, j'ai bu le kikéron, j'ai pris dans le panier, dans la ciste, et après avoir travaillé, et après avoir mangé ou avoir jeûné, j'ai déposé dans la corbeille, puis, reprenant de la corbeille, j'ai replacé dans le panier.
Pour nous, ce texte, qui semble relativement obscur, reprit à la lumière de ce que nous savons, c'est-à-dire depuis l'offrande dans une coupe, depuis le fait de consommer ce qui se trouve être dans la coupe ensuite étant replacée près de l'autel ou sur la pierre, pour nous ce texte est un texte clé qui, bien entendu, va nous montrer qu'il n'y a pas de mystère à la fois sans formule, c'est-à-dire sans rituel, sans image. Désormais, nous sommes au cœur de la nuit. Avec elle commence la grande initiation. Que veut donc dire ce mot qui revient constamment ? Cérémonie secrète d'un culte. Pour nous, la chose secrète à redécouvrir est nettement le langage de l'image. Il est évident que, dans la mesure où l'on reçoit les images, un secret vous lie à la chose vue. Ce secret, pendant un temps, va impliquer le silence. Ensuite, il exigera la louange, non pas au sortir de l'expérience, mais bien longtemps après. Il y a donc eu là, dans l'histoire de l'humanité, aussi bien en Grèce qu'en Égypte et au Mexique, maintenant, un ensemble de rites ayant pour objet d'obtenir la purification, la levée d'une interdiction, ayant surtout pour objet de contraindre l'être à sortir de sa solitude, ayant pour objet d'obtenir aussi la fertilité du terreau de l'être. Toutes les divinités chthoniennes, c'est-à-dire celles de l'en-dessous de la terre, sont en un sens appelées et conjurées par celui que nous appelons le chaman, et le rôle de la terre, le rôle de cet élément, intervient dans la première phase de l'expérience des images, phase dite du noir, et jadis, le noir, c'était l'Égypte. Phase du souterrain, phase du puits, phase de l'abîme. La terre noire, d'après les anciens lexiques, c'est l'Égypte. Il s'agit alors non pas seulement du règne d'un élément, nommé terre, mais de divinités agraires, celle du blé, celle de l'orge. Et très curieusement, au Mexique, l'une des divinités clés est celle du maïs. En Grèce, le culte des grains, grains de blé ou grains d'orge, et nous verrons bientôt le rôle de l'épi, en Grèce et en Crète, Zeus a pour servant celle qui moissonne. Et celle qui moissonne, en réalité, n'a pas pour objet de faucher, mais pour objet de cueillir le grain. Au Mexique, les mystères du maïs, les mystères du champignon, les mystères des brins de plumes et de l'étincellement sont toujours liées à l'ingestion d'un mets, non pas des grains de blé, mais parfois des grains de maïs. Georges Dumézil, dont René Tian va nous parler, s'est attaché à la figure d'un personnage singulier, disons le prêtre, mais nommé Flamen, et nous retrouvons alors nos plantes. Le Flamen avait comme insigne de sa fonction un rameau de grenadier ployé en forme de couronne. René Tiamble, qui a été formé en grande partie par Georges Dumézil, pourrait certainement nous donner des précisions en ce qui concerne l'œuvre de Georges Dumézil.
J'ai, comme vous, découvert Brahman Flamen, et ce n'est peut-être que maintenant que je rentre de l'Inde, que j'entrevois à quel point tout cela était riche et puissant. Car lorsqu'on a vécu un peu dans l'Inde, que l'on voit encore la puissance de la caste des Brahmanes, on sent qu'avoir découvert que le Flamen, et le Flamen Dialis notamment, de Rome, c'est-à-dire ce collège de prêtres qui avait une fonction si importante dans la cité, n'étaient que les équivalents romains et un peu laïcisés, si l'on peut dire, puisqu'il s'agit de prêtres, de ce qu'était le Brahman dans la société, et de ce qu'il est encore, il faut bien le dire, dans la société indienne tripartite, comme Dumézil l'a si définitivement démontré, la caste des Brahmanes, les prêtres, la caste des guerriers, des kshatriyas, et ensuite la caste des laboureurs, des vaishyas, dont on trouve l'équivalent dans toutes les sociétés marquées au sceau de l'indo-européanisme, comme on dit, et même dans d'autres sociétés. Mais il y a encore autre chose à propos du Brahman, c'est la fameuse cérémonie du soma, ce breuvage.
En effet, Georges Dumézil a écrit un ouvrage extrêmement précieux, Festin d'immortalité, où il est question de l'ambroisie en particulier, mais il faudrait que nos auditeurs comprennent la relation qui existe donc entre Dieu, religion, mystères et breuvages. Comme vous le savez, les dieux sur l'Olympe buvaient de l'ambroisie, mais dans l'Inde, le soma jouait un rôle particulier. Donc nous retrouvons toujours ce même lien, breuvage, rituel, oblation et sacrifice. Que pouvez-vous, René Tiamble, à ce propos, préciser pour nos auditeurs?
Dans l'Inde védique, le sacrifice humain était décrit comme une cérémonie solennelle autonome. Les feux sacrés jouaient un très grand rôle, mais l'oblation védique par excellence, les grands indianistes contemporains sont d'accord pour dire que c'était l'oblation du soma. C'était par excellence une boisson que nous dirions aujourd'hui d'une façon un peu vulgaire enivrante et dont l'abus serait dangereux, mais elle avait avant tout, et elles sont reconnues comme telles, des propriétés à la fois extatiques et immortalisantes. Le malheur, c'est qu'en dépit de tous les efforts des savants, on n'a pas pu identifier la plante dont il s'agit. Aux dernières nouvelles, il pourrait s'agir, mais il pourrait sans plus, d'une sorte d'asclépiade, et on a même identifié l'Asclepias acida ou acida, chanvre d'après Joseph Chandra Ray, rhubarbe sauvage d'après le célèbre orientaliste Sir Orlstein. En fait, nous en sommes toujours à nous poser des questions. Les opérations relatives au sacrifice du soma sont extrêmement compliquées, comme tous les rituels védiques, mais il est certain qu'elle avait une propriété extatique et immortalisante, et c'est cela qui ici nous intéresse.
Vous avez bien connu Georges Dumézil, quel souvenir en gardez-vous?
Écoutez, oui, je ne sais pas si Georges Dumézil me pardonnera de dire que je l'ai bien connu, c'est-à-dire que moi je l'aime et l'admire depuis bientôt 30 ans, mais enfin, qu'il m'excuse si par hasard ceci vient à sa connaissance, ce n'est pas comme ça, à l'improviste, que je peux me permettre de parler bien d'un homme à la fois simple et secret. J'ai découvert sa qualité d'esprit et d'imagination il y a bientôt 30 ans, quand j'étudiais avec lui un peu de chinois aux langues orientales, mais ce qui m'a frappé, je l'ai d'ailleurs une fois rapproché, peut-être est-il bon de le dire, j'ai fait deux articles dont le titre était « Einstein et Dumézil ». Vous voyez très exactement sur quel plan je le mets. Pour moi, dans l'ordre de la mythologie comparée, de l'intelligence, de la civilisation indo-européenne et plus généralement de la civilisation, dans l'ordre de l'érudition généralisée, comme on parle de la relativité généralisée, je connais peu d'êtres au monde qui m'aient donné plus fortement le sentiment à la fois du génie, de la modestie et de la gentillesse. C'est un homme dont le savoir pourrait stupéfier, mais qui ne stupéfie pas en un sens parce qu'on n'a jamais l'impression de se trouver devant un si grand savant. Il parle avec le langage des hommes de tous les jours, C'est le type même de ces hommes vraiment grands que malheureusement la France produit en assez grand nombre et qui ne sont pas toujours assez connus.
Je vous remercie et l'attention est donc attirée désormais depuis des recherches qui s'orientent plus ou moins parallèlement ou en concordance. L'attention est donc attirée vers cette relation entre plantes et mystères.
À présent, revenons au Mexique.
Lors de la cérémonie, dans la nuit, le chaman ou le curandero, c'est-à-dire le personnage qui connaît le secret des herbes et qui a nom à Huautla de Jiménez la Maria Sabina. La Maria Sabina, donc, s'approche de l'autel, s'approche de l'encens, de la braise, et va vers chacun des assistants, des participants. L'on est tout de suite frappé par le son aigu de sa voix, sont prononcés les noms de chacun des êtres qui se trouvent être là. Nous avons d'ailleurs retrouvé un vieux texte dans les papyrus magiques grecs, où il est dit, toujours dans le cadre du rituel et du feu et des plantes divinatoires,
« Prononce tous ces noms avec le feu et le souffle, disant une première fois toute la série complète. »
Ainsi, dans les scansions que vous entendrez, se trouve mêlée à tel ou tel moment la présence du nom de chacun. Il est évident que dans cet ensemble, voix et souffle, scansion, frappement de main, joue un très grand rôle. Pourquoi ? On sait que la voix est créatrice, et en se condensant, la voix devient un être, la Sabina invoque les éléments, il y a dès lors une participation au cosmos. Les enregistrements que vous allez entendre et qui ont été pris dans le village de Huautla par l'équipe du professeur M en 1956 vont vous permettre de surprendre, comme en dessous de la voix, ce souffle dont nous venions d'évoquer les vertus. Il s'agit là d'un document, et ce document a pour mérite de révéler une extraordinaire coalition entre voix et souffle, et d'autre part, une série de passages entre musique, psalmodie, incantation et scansion, impliquant plus d'une fois le frappement des mains. Il y a là comme une sorte de mélopée, comme une sorte de musique lointaine qui nous atteint. Mais en fait, il s'agit d'un rite de communion. Magicienne, la Sabina connaît la puissance des sons qui, si on les émet sur le ton juste et la langue et du Mazatec, produisent leur effet. C'est par la voix, c'est par la parole, scandée, chantée, psalmodiée, reprise, c'est par l'incantation. La Sabina joue en chambre le rôle du gouverneur qui dirigerait comme l'assemblée des fidèles, c'est donc par l'incantation que vont être dirigés les éléments. Ainsi, par l'intermédiaire du rituel, se crée le monde favorable des esprits, monde qui tout d'un coup va permettre l'accès à l'univers visionnaire, au déroulement et à l'ordonnance des visions. La Sabina vient de s'adresser à chacun des éléments. Ils sont nommés. Et de ce fait, leur présence est souveraine. Désormais, nous sommes en présence du monde. L'expérience va débuter par une période noire, durant laquelle on affronte le dragon ou le monstre, période ophidienne, et vous savez que le serpent ou le dragon aurait pour objet et pour être de dire la vérité. Durant cette période noire, seuil initiatique, tout dépend du problème des couleurs, domine nettement cette couleur dite noire ou encore grise, verte, grise, sombre. Indéniablement, on doit affronter alors l'inconnu. Et, fait curieux, dans la mesure où on a pu retrouver des textes indiens d'avant la conquête et comparer ces textes avec d'autres qui sont, eux, égyptiens, l'on découvre une corrélation entre couleur et recherche de la matière dans une science qui, alors, au temps d'Hermès, avait ses prophètes et ses savants, il s'agit de l'alchimie. En alchimie, le fait de cuire ou le fait de travailler au fourneau signifie que l'on voit et que l'on voit des couleurs. L'on oublie souvent que, lorsqu'il s'agit d'une expérience initiatique, l'essentiel est d'abord d'entrer dans la caverne, d'entrer dans la grotte, d'où ces rugissements, d'où ces mélopées, d'où cette sorte de musique extrêmement sombre, tenace, griffue, qui, somme toute, veille à protéger chacun par le plus menaçant. Le plus menaçant étant en un sens émané par la voix, par le souffle, par le son et par le chant, l'entrée dans la caverne ou l'entrée dans le labyrinthe, et toute initiation commence, nous l'avons déjà dit, par la descente aux enfers ou par la venue au monde souterrain, cette entrée se fait donc comme non pas saluée en musique, mais sous l'aubade et sous la protection d'une œuvre extrêmement fermée, extrêmement secrète, œuvre musicale scandée dont la mélopée surprend et poursuit. La période entendue, maintenant, signifie l'accès tout d'un coup au diamantin. L'on a l'impression que les yeux se réunissent, et il s'agit là d'un fait d'expérience en état d'hallucinose qui a été constaté et expérimenté. Du pouce et l'index joignaient les deux yeux, une sorte de communication s'établit, et le moindre sillement, surtout après ingestion des champignons, détermine une sorte de globe oculaire arrondi, chargé d'images. Imaginez encore un sablier mais renversé, comme le signe de l'infini en algèbre, et les images communiquent non pas de l'une à l'autre partie, mais passent et s'échangent. Dans cette période blanche, période diamantine, les premières constructions colorées architecturales paraissent. Dans les vieux récits d'initiation d'Hermès, il s'agit très souvent d'une découverte faite dans la mesure où une colonnade se brise ou est brisée par une main souveraine, par une main invisible, celle du puissant, et du cœur de la colonnade paraît un livre. Il s'agit là du récit exemplaire fréquent dans les mythes de révélation. Or, ces colonnades précèdent des architectures qui indéniablement s'apparentent aux pyramides à la fois du Mexique et de l'Égypte. Nous sommes amenés donc au cœur de la période blanche, vers l'intérieur d'une pyramide où paraissent des fresques, où paraissent des frises, et fort curieusement, à l'intérieur de ces pyramides, les fresques sont colorées. Et cette lumière diamantine prépare, dans l'hyper-excitabilité rétinienne, une autre période. Nous allons vers le jaune ou l'orangé.
Ma 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 ki ki ko ka ki ko ka ko 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 ka ki 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 Cristo siempre 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 ay ay ay.
Nous venons du blanc et nous sommes passés par le jaune. Nous allons vers l'orangé, couleur de fond de mer, couleur qui, bien entendu, va tendre vers l'excès et vers le paroxysme. Et dans ces couleurs orangées se dessinent, se profilent des figures d'algues, de mousse, non pas de champignons, mais en tout cas très nettement de cupules extrêmement aiguës. Et comme vous le savez, les cupules orangées des mousses sont comme méchantes, sont comme dressées vers le ciel. Eh bien, un renversement intervient et s'opère. Tout d'un coup, la pointe de cette sorte de petite pyramide végétale est dirigée vers vous et devient non pas menaçante, mais extrêmement animée. L'on doit affronter soudain, après les bottes d'algues, cet ensemble orangé, qui va correspondre à un métal, comme nous le verrons tout à l'heure. Les paroles entendues, dont vous ne pouvez percevoir le sens, signifient en fait que la couleur désormais est devenue métal. Nous passons au rouge, et j'aimerais que dans les décryptements entrepris à propos de l'expérience des champignons, vous puissiez songer à des corrélations, qui la plupart du temps ont disparu, à des corrélations extrêmement nettes entre métaux, couleurs, planètes. Si l'on dit or, vous songez à soleil. Si l'on dit rouge, vous devez songer à un paroxysme, et si l'on parle de métaux au sens chimique du terme, vous savez l'importance de l'or et de l'argent. Or, dans l'expérience qui vient d'avoir lieu, se trouvent mêlés les planètes et les métaux. Les éléments vont signifier que le cosmos sera présent en chacun des êtres. Et si l'on en croit l'ancienne science, l'homme nouveau ou l'homme du renouveau devient l'homme or. Or, dans la phase rouge, qui est une phase terminale, avant une période de déclin, avant une sorte de série de paliers qui vont conduire peu à peu vers le réveil, dans la phase rouge, l'homme or, l'homme soleil, est nettement triomphant. Pour nous résumer, quant aux quatre couleurs majeures qui viennent d'être dévoilées, c'est-à-dire noire, blanche, orangée, rouge, vous devez songer qu'en fait, et selon Démocrite, l'on retrouve ainsi quelques correspondances avec l'ancienne science qui est physique, vous devez songer que l'on retrouve ainsi les quatre corps essentiels et les quatre éléments, terre, eau, air, feu. Il y a donc là comme une sorte de très ancienne cosmologie. En conclusion, aux enregistrements entendus, L'on pourrait rappeler un vieux texte d'Hermès tiré du Corpus Hermeticum du traité 1, paru il y a peu d'années. Il s'agit du chant de la rumeur. Et il est évident que ce qui frappe les êtres qui subissent l'expérience, c'est l'impression de connaître tour à tour soit l'état de ballottement, soit l'état de flottement, soit l'état d'ascension, état que nous avons qualifié de lévitation verticale ou horizontale. Il est évident qu'il s'agit là d'une illusion. On a l'impression de voler ou de flotter. En fait, on est évidemment immobile. Mais au moment de la quatrième phase, et déjà Hermès insistait dans son récit d'initiation, au moment de la quatrième phase, l'on entend donc la grande rumeur. Et cette rumeur, à quoi correspond-elle? Écoutons Hermès.
D'abord, dans la dissolution du corps matériel, tu livres ce corps lui-même à l'altération. Et la forme que tu avais cesse d'être perçue. Et tu abandonnes aux démons ton moi habituel désormais inactif, et les sens corporels remontent à leurs sources respectives dont ils deviennent des parties, et sont de nouveau confondus avec les énergies, cependant que l'irascible et le concupiscible s'en vont à la nature sans raison.
C'est alors le chant de la grande rumeur, et Hermès poursuit.
De cette façon, l'homme s'élance désormais vers le haut, à travers l'armature des sphères, et à la première zone, il abandonne la puissance de croître et de décroître. Désormais, il est soumis à l'influx des images.
C'était La liberté coupable, troisième série. Plante divinatoire. Champignons hallucinogènes. Une suite d'émissions composée par René de Sellier avec le concours de Jacqueline Arpet. Aujourd'hui, le rituel avec René Etiamble et la voix de la Maria Sabina enregistrée par Roger Haim. Assistant René Albach, réalisation Pierre Barbier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la RTF le 16 novembre 1963. À suivre.